classiques ont souvent été reprises à l'âge classique. Donc, on retrouve la même idée que finalement, la famille, ça va être quelque chose qui va venir faire obstacle à des sentiments. En fait, donc, il y a la famille et le politique. D'une certaine façon, peut-être la famille, ce serait une espèce de raison par rapport au côté un peu déraisonné de sentiments amoureux. Quelqu'un qui va aimer une autre personne ne peut pas se retrouver avec elle parce que politiquement c'est pas possible, parce que dans la famille de cette personne, en fait, on a tué son père, ou alors c'est deux familles qui se haïssent depuis des générations. Donc je pense entre autres à Roméo et Juliette de Shakespeare. Il y a eu aussi une adaptation personnelle faite par Cécile Ladjali dans une pièce qui s'appelle Hamlet Electre. On trouve ça effectivement chez Corneille avec le Cid, et on retrouve ça avec Andromaque de Racine. Ça c'est pour ce qui est plus la tragédie. Après, je dirais que dans la comédie, entre autres chez Molière, on trouve la famille comme point de départ pour faire une satire sociale. Ça peut être avec souvent quand même des mariages qui doivent se faire, qui ne se font pas. Enfin voilà, mais toujours avec quand même cette idée que il y a ce que l'amour qu'ont certaines personnes, et puis ce qui devrait se faire pour que au niveau de la famille, pour des raisons d'argent ou de devoirs familiaux. Donc ça peut être dans l'avare, bonjour gentilhomme, en fait, un petit peu dans toutes les pièces, de toute façon il y a un petit peu le même canevas, donc on retrouve ça. Dans quelque chose de plus récent aussi, au niveau presque comédie, disons qu'il y a un côté très burlesque dans une pièce d'Hanok Levin, Les funérailles d'hiver. Et là, en fait, le point de départ, c'est un fils qui est avec sa mère. En fait, sa mère meurt. Et donc, il doit aller sonner chez toutes les personnes de la famille pour leur demander d'être présente, en fait, sur les funérailles de sa mère. Mais comme il doit y avoir le mariage de la petite nièce, en fait, tout le monde repousse le malheur du décès et ne veut pas voir, en fait, cette réalité-là. Et veut voir juste l'aspect festif, en fait, du mariage, et en fait oublier le deuil de cette mère. Ce qui donne en fait assez souvent des personnages assez monstrueux dans ce regard-là. Ça c'est pour la partie un peu théâtre. Je vais revenir sur le thème que la famille, c'est important, parce que finalement dans pas mal de romans il y a des personnages qui n'en ont pas. Donc on pense bien évidemment à Hector Malot, Sans famille, où on suit un petit garçon qui s'appelle Rémi et qui se retrouve sans famille et va trouver sa famille dans une bande de saltimbanques qui parcourt la France, et entre autres à travers le personnage de Vitalite qui qui devient une sorte de père d'adoption. On trouve ça aussi chez J.K. Rowling dans Harry Potter, puisque Harry Potter, en fait, il perd ses parents assez jeune et il se retrouve l'héritier de sorcier et avec en fait un poids qui l'incombe, qui va devoir porter tout le long de toute la série de romans d'Harry Potter. Chez Charles Dickens, avec Oliver Twist, on est vraiment là plus dans le roman social et dans la dénonciation de la misère en Angleterre au XIXe siècle. Ce qui, finalement, s'il n'y avait pas eu Charles Dickens, je pense qu'il n'y aurait pas Harry Potter, parce que il y a quand même cette histoire un peu de pauvreté, de situation sociale et de classe, en fait, dans pas mal de romans anglais. Dans un autre roman aussi qui parle d'orphelins, mais là, dans un côté, là, il y a un autre aspect social, c'est dans la vie d'Émile Ajar, en fait, un des noms de Romain Gary. En fait, l'aspect social est vachement moins fort dans Romain Gary, dans La vie devant soi. Là, on suit juste l'histoire d'un petit garçon et de plein d'autres petits garçons qui sont recueillis en fait par des putes en fait dans Paris. Il me semble que ça se passe vers Belleville, dans le 20e arrondissement de Paris.
Oui.
Arrondissement populaire, qui intéresse plus Romain Gary, c'est la tendresse et le rapport qu'ont ces deux personnes. En fait, le petit garçon s'appelle Momo et il est recueilli par Madame Rosa. Et en fait, ces deux personnages-là ont un rapport à la fois par moments conflictuel et aussi très tendre. Enfin, bah, il essaie de parler plus de cette tendresse qu'a la mère adoptive. Un des romans aussi, alors là, on part de la littérature française pour parler d'un des personnages aussi, d'un des écrivains qui m'a beaucoup touché ces derniers temps, qui s'appelle Richard Wagamese, qui est un écrivain canadien-indien. Et il a écrit un livre qui s'appelle Jeu blanc, qui est à la fois un livre assez tragique, puisque en fait le personnage perd toute sa famille dès le début du roman, avec une très belle scène en fait où il est dans les bras de sa grand-mère sur les quais d'une gare, et en fait il neige, il fait froid, il doit faire moins 40, et sa grand-mère meurt alors qu'elle le tient dans ses bras. Il va être recueilli dans une sorte d'orphelinat super strict, on demande aux jeunes Indiens autochtones d'oublier en fait leur culture d'origine pour apprendre la culture catholique occidentale. Et en fait, lui, il va retrouver une sorte de salut, de fuite, en fait, dans le hockey sur glace. Et donc voilà, la deuxième partie du roman, c'est plus vraiment son amour en fait pour ce sport. Mais on est à la fois dans un récit en fait super violent et dans des descriptions de paysages qui sont magnifiques. Je reviendrai plus tard en fait sur un autre livre de Richard Wagamese, mais c'est un livre, c'est un écrivain qu'il faut absolument connaître parce que c'est vraiment magnifique ce qu'il écrit. Un autre livre que j'ai beaucoup aimé, c'était Âme brisée d'Akira Mizubayashi, qui est d'origine japonaise et qui écrit en français. En fait, Âme brisée, c'est l'histoire d'un petit garçon en 1938 qui, à Tokyo, suit la répétition de musique classique occidentale de son père, qui est japonais. Donc on est en 1938, en pleine guerre sino-japonaise. Et en fait, son père répète la musique classique occidentale avec des Chinois. Donc vraiment, il a tout faux. Et là-dessus, il y a des soldats japonais qui vont débarquer et qui arrêtent tout le monde. Et qui détruisent le violon de son père et qui le donnent en héritage, un triste héritage, au fils qui s'est planqué en fait dans un caca. Mmh. En fait, toute la vie de cet enfant va être perturbée par le fait de vouloir reconstruire en fait le violon de son père et reconstruire sa vie à lui-même. Donc en fait, il y a comme ça une comparaison entre la vie de ce jeune garçon et l'instrument qui est vachement belle. Et donc il est adopté par une famille française, il va poursuivre des études de lutherie en France et voilà, tout en essayant de comprendre ce qui s'est passé par rapport à son père, etc. Le dernier livre qui parlerait pour moi de personnes sans famille, ça serait Peter Pan de James Matthew Barrie. C'est un livre que j'ai pas lu. J'ai lu, moi, la magnifique BD de Loisel, qu'il faut absolument lire. Mmh. Mmh. C'est quand même magnifique. Peter Pan, en fait, a une mère qui est alcoolique, qui est... Là, on est dans une ambiance très à la Dickens aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est que en fait, il y en a une sans vraiment en avoir une, parce que vraiment là. Lui, il va créer tout un univers imaginaire parce que la réalité, finalement, d'être orphelin ou de ne pas avoir de parents est trop dure. Donc, voilà, ça, c'était assez intéressant, en fait, de voir peut-être l'espèce, le côté un peu traumatisant que peut avoir poids de pas avoir de parents. Voilà. Après, il y a deux autres sous-thèmes, en fait. Il y a le fait de ne pas avoir famille, il y a le fait d'en être séparé de cette famille, il y a le fait d'en avoir presque. Voilà. Dans le côté famille séparée, là, on va trouver énormément de livres actuels qui traitent principalement du thème de l'exil, des réfugiés, de migrants, migration. Voilà. Je pense entre autres à une auteure sénégalaise qui s'appelle Fatou Diome, qui a écrit un livre qui s'appelle Celles qui attendent. Et en fait, on suit des femmes sénégalaises qui attendent des nouvelles de leurs maris qui sont partis en France pour essayer de gagner leur vie Et c'est vachement intéressant. En fait, on suit les hommes qui sont en France, qui galèrent, qui en même temps oublient un petit peu leur famille au pays. Et puis, on suit les femmes qui, elles aussi, galèrent à leur façon et essayent de survivre et de continuer à vivre avec la même vie qu'elles avaient avant. Il y a un livre de Louis-Philippe d'Alembert, Mur Méditerranée. Là, on suit trois femmes de trois pays différents. Il y a Sabratha. Ça se passe à Sabratha, sur la côte libyenne. Et on suit une femme qui est nigériane, qui s'appelle Shoshana, Semar, qui est érythréenne, et elle, en fait, qui viennent vraiment de milieu, d'une classe défavorisée, qui fuit la guerre. Et on suit une famille syrienne qui débarque en fait en Libye avec la personne de d'Imam, voilà. Et qui, elle, est une famille assez riche de Syrie qui essaye aussi de pouvoir prendre un bateau jusqu'à Lampedusa pour rejoindre l'Europe. Il y avait comme autre livre sur l'Afrique, le livre Gaïf, Petit pays, où là, on suit son enfance au Rwanda et au Burundi. Et en fait, son enfance va être... j'ai arrêté, enfin, perturbé par la guerre du Rwanda. Et sa mère, en fait, va vouloir prendre des nouvelles de sa sœur et en fait, de toute une partie de la famille. Va s'apercevoir qu'ils sont morts dans d'atroces souffrances, va en fait tomber sur leur corps et va donc. Va devenir folle. Et en fait, mais voilà, là, j'en dis vachement trop déjà sur. Mais voilà. Voilà. Et après, donc, deux autres livres qui parlent de la séparation. Je pensais à De pierre et d'os de Bérangère Cornu, où là, il y a un aspect plus. Changement climatique, puisque finalement c'est une jeune Inuit qui va se retrouver séparée de sa famille et en fait de tout son peuple suite à une fracture en fait dans la banquise. Et en fait, on va suivre un petit peu son errance à travers cette banquise-là, quoi. Et l'autre livre aussi, mais je vais en parler un petit peu plus tard. C'est de David Vann, Sullivan Island, qui est pour moi l'un des livres les plus glauques que j'ai pu lire. En fait, dès le départ, on suit un père et son fils qui débarquent sur une île sur la côte d'Alaska. Et son père fuit un petit peu différentes choses. Ces questionnements existentiels. Et en fait, le fils ressent un petit peu les errements de son père. Il est un peu là à son insu, enfin, il n'a pas envie de se retrouver avec son père. Hein. Et en fait, il va se suicider. Le père, taré. Va essayer de l'enterrer, va essayer, enfin, il sait pas ce qu'il doit faire, ça va. Mais c'est super sympa.
Oui.
Voilà. Mais en tout cas, enfin, voilà, c'est vachement bien, David Van. Ça, c'était pour le côté plus séparation, l'idée d'arrachement à une culture, à un peuple, à une famille. Voilà, la famille, en fait, ça représente pas seulement un groupe d'individus auquel on est lié par le sang, c'est aussi l'exil, l'arrachement culturel, va vraiment arriver à se reconstruire par rapport à ça. Je disais qu'il y avait aussi des romans où il y avait un excès de famille. Je pensais à deux séries de romans. Il y avait chez Daniel Pennac la saga Malocène. Et en fait, au niveau des livres, il y a Au bonheur des hommes, La fée carabine, La petite marchande de prose, Monsieur le Malocène. Et après, je sais qu'il va y avoir d'autres dont je n'ai pas les titres.
Qui se passe à
En fait.
Belleville, comme le roman dont tu parlais de Romain Gary.
Ouais.
Ouais.
Le roman de. Ouais, c'était La vie devant soi.
Ouais.
Pardon, c'était quoi la
Non,
question?
pardon, mais excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non, je disais que la saga Malocène, ça se passait également à Belleville, comme ouais, le
Ouais,
même quartier de Paris dont tu parlais tout à l'heure.
c'est petit clin d'œil aussi. En fait, ouais, on suit un personnage qui s'appelle Malocène et qui travaille dans un grand magasin en tant que bouc émissaire. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient au service après-vente de ce magasin, en fait, on le renvoie Malocène, dont je n'ai plus le prénom, Benjamin. Et voilà. Et donc, en fait, chaque bouquin, ça va être un petit peu des péripéties de ce personnage. On croit que c'est quelqu'un d'autre, mais en fait, et à chaque fois, en fait, il est dans une famille où ils sont plus 5-6 au moins. Tous ses frères et sœurs, en fait, sont des personnages rocambolesques et chacun va finalement aider au niveau de l'intrigue pour qu'il y ait une happy end. D'une autre façon, je pensais à Tom Sharp dans les romans Wilt. Alors là, on est sur du gros humour anglais comme on aime. Tom Sharp avec Wilt. Wilt, c'est un personnage, un prof, je ne sais même pas exactement de quoi il est prof dans un lycée en Angleterre. Et en fait, à chaque fois aussi, on va le prendre pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que, ouais, on va penser que, en fait, c'est un gars pervers, que c'est un mafieux ou quelqu'un qui a des mauvaises intentions, enfin, qui veut tuer des gens. Et à la fin du premier livre, il me semble, en fait, sa femme donne naissance à quatre enfants, et donc on va suivre en fait dans les autres épisodes aussi ces enfants qui, même s'ils sont bébés, etc., vont permettre aussi à l'intrigue finalement de se terminer en happy end, parce que de toute façon les flics anglais sont complètement cons ouais, je dirais que c'est un peu du Benny Hill sous forme de littérature, quoi. Oui, il y a un petit côté un peu comme ça. Éventuellement, ah ouais, on en est déjà en fait à bientôt 80. On peut faire une pause musicale si vous pensez en faire une.
comme tu veux, on peut éventuellement, sauf que
ouais.
Là, la technique est plus là dans le studio. Ils viennent de partir il y a 10 secondes, mais je pense qu'ils vont revenir très vite.
Ouais, mais sinon, bah, je continue, il n'y a pas de problème. Je bois juste un petit peu d'eau.
Ah bah vas-y, vas-y, on t'en prie. Ah, la technique revient, mais si tu veux, oui, on peut faire une petite pause musicale. Et puis on continue dans quelques minutes. Voilà.
Ok.
Ok, à tout de suite.
À tout de suite.
Like Picasso, Movado, Ice Style, Del Dorado, Farragamo, Soprano, Ensemble, dance like no tomorrow. Coronado, I rock gold just to sparkle. Chill with Chop, it be the club Desperado. Marco, Puerto Rico, drop, ladies marvel. Chop the rock, cock back, yo, pack the hollow. Ricardo Montalban, I bust hot rocks, colossal. Bravo, Gustavo, Delgado, hard to follow. Era Ip, cop the cash, hot Diablo. Funk rocks the club, from here to Morocco. Awful shots pop, then blaze you like charcoal. To all my hustlers, stacking numbers. Yo, let's hold it down, all we got is each other. To all my MCs and DJs, and the PJs who stay weeded, blooded on the weekdays. To all my Latin killers, my drug dealers on the block, who got their fingers on the trigger. To all my ladies in the clubs, my ghetto thugs, all my real motherfuckers, one love. Mira chico, aquí estoy en Puerto Rico. Angelito camino, un vasito de olito. Traguerito, cuánto jeba 25. Escondido chico, mira, prende el abanico. Chip, chill with chips, o latino con permiso. Viejito lito, que dejiste yo lo dicho. Ese tipo, con calito yo lo visto. Que cochino, mamalito, bienvenido. Hueque, hueque, caquito y suavecito. Trapenito, necesito un pedico. Poquito socelito haciendo amirico. Para Puerto Rico, Cuba, Santo Domingo. To all my hustlers, stacking numbers. Yo, let's hold it down, all we got is each other. To all my MCs and DJs, and the PJs who stay weeded, blooded on the weekday. To all my Latin killers, my drug dealers on the block, who got their fingers on the trigger. To all my ladies in the clubs, my ghetto thugs, all my real motherfuckers, one love. Boy, you poppy, I'm high tech like Itachi. Mommy blonde hotties, hip hop to this malarkey. My hotties naughty, they top this rock by Omani. The Punani Swami, they slot my knob, bust the lobby. Chitty Pang, Japan, yo, Kimosabi. Her body's hot, I rock the club, people spot me. Doobie, Bachi, Versace, Kamikaze, hit you sloppy. My mom's cocky, Swamazi shots, drop the nolly. And all me mad hotties, call my calm, walkie talkie. Wally Banks, Japan, do you Bravo, echo copy. Stocky rock fucks, wanna chop me like Miyagi. I'm rotten like Johnny, bust my double pump shotty. To all my hustlers, stacking numbers. Yo, let's hold it down, all we got is each other. To all my MCs and DJs, and the PJs who stay weeded, blooded on the weekday. To all my Latin killers, my drug dealers on the block, who got their fingers on the trigger. To all my ladies in the clubs, my ghetto thugs, all my real motherfuckers, one love.
Radio, on est là, toujours en direct sur 107.7 et sur lasphero.net en ce qui concerne Internet. Et on est toujours avec Didier de la librairie La Flibuste en région parisienne. Et tu nous parles aujourd'hui de la famille en littérature.
Ouais. Ouais, c'est bien un peu comme ça. Comme
bah ouais, super intéressant.
Voilà. Ouais. Donc, ouais, on va... Donc, si j'ai le temps, bah, y a encore en fait trois sous-thèmes à la famille. Il y a l'histoire de transmission et d'héritage. Après, on va revenir sur le côté social en fait des romans qui parlent de la famille. Après, on va s'apercevoir que dans beaucoup de romans, il y a des duos qui peuvent être mère-fils, mère-fils-fille, frère-frère, sœur-sœur, père-fils, père-fille. Voilà. Moi, j'ai noté que quelques livres avec mère, fils, frère, frère et père, fils. Ouais. Et puis voilà, ce sera l'occasion de conclure après. Sur l'histoire de la transmission et d'héritage, voilà, c'est dans beaucoup de romans, finalement, un héritage un petit peu lourd.
Allô, allô.